Passagem de Nível, com Artur Silva.
Muito boa tarde, cá estamos nós neste domingo, dia 3 de maio, na vossa companhia, até às 14 horas. É aqui vão os temas que queremos abordar. Para já, dia 5 de maio, como que diz, na próxima terça-feira, Dia Mundial da Língua Portuguesa, proclamado pela Unesco. Teremos uma entrevista gravada com o Conselheiro Cultural, o diretor do Instituto Camões, quer-me referir a Jorge Barreto Xavier. E falaremos igualmente da 12ª edição da Corrida Solidária Correr pela Misericórdia, que se realiza no dia 14 de junho. A provedora da Santa Casa, Hilda Nunes, estará em direto connosco via telefone. E dois livros, para já, o livro de São Cyprien, O Le Trésor de la Sorcellerie, edição Chandenha Lima, tradução de João Viegas. Trata-se de uma entrevista realizada em direto por telefone, dia 9 de março de 2025, com efeito de João Viegas, advogado, jurista, mas igualmente tradutor. Faleceu no dia 12 de abril. Voltaremos ao assunto mais tarde. E falaremos igualmente da quarta sequência, 4ª sequência do ciclo de Novo Cinema, à Villeneuve d'Ascq, près de Lille, projeção e débat autour du film Dieu, Patrie, Autorité. Et ça sera le 7 mai. Et on parlera également de deuxième bouquin, Les Pêcheurs de Raoul Brandão, édition Chandaigne et Lima. On aura la traductrice du portugais Elisabeth Montel-Rodrigues. Et pour terminer, on va parler d'une expo de photos, mais également de collages. Mas antes de mais, queria relembrar que hoje é o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. E o presidente António José Seguro defendeu hoje o papel essencial de uma imprensa livre como pilar da democracia e lançou o alerta devido ao agravamento das ameaças à atividade jornalística a nível global, isto diz respeito a todos os países. Enfim, comecemos então esta passagem de nível, lembro, dia 3 de maio. E ainda será no dia 5 de maio, que foi oficialmente estabelecida em 2009 pela Comunidade dos Países da Língua Portuguesa, chamada CPLP, em 2019, a 40ª sessão da Conferência Geral da Unesco, que decidiu proclamar neste dia 5 de maio de cada ano como o Dia Mundial da Língua Portuguesa. Este ano, precisamente, a Embaixada de Portugal e a Embaixada do Brasil em Paris decidiram conjuntamente esta data através dos seus institutos culturais, o Camões, Centro Cultural Português em Paris e o Instituto Guimarães Rosa. A programação essa vai decorrer durante a tarde na Embaixada do Brasil, incluindo o 5º Encontro de Professores de Língua Portuguesa. Jorge Barreto Xavier, antes de mais, muito bom dia.
Bom dia.
Ora, queria lembrar, Conselheiro Cultural e Diretor do Instituto Camões. Mas, precisamente, para si, o que é o significado, qual é o significado deste Dia Mundial da Língua Portuguesa?
O Dia Mundial da Língua Portuguesa, para mim, significa, de facto, um dos mais importantes sinais de um elemento de cultura que liga uma comunidade em todo o mundo. O português é falado por mais de 260 milhões de falantes em 5 continentes. É a língua oficial de 9 países na Europa, em África, na América do Sul, na Ásia. E sendo, de facto, uma língua global, é também um sinal forte de que a cultura nesta língua, através da poesia, através da literatura, ou, obviamente, no âmbito da dinâmica dos negócios, da comunicação do dia-a-dia, faz parte deste mundo em que vivemos. É um elemento muito importante deste mundo em que vivemos. É uma das línguas mais faladas do mundo.
Ora, eu permito-me passar um extrato da mensagem alusiva ao dia 5 de maio do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, mas foi em 2023, 2026, teremos que esperar pelo dia 5. É um curto extrato, bom, é subjetivo, mas é ele aqui vai.
É sempre com renovada satisfação que me associo à comemoração, a 5 de maio, do Dia Mundial da Língua Portuguesa e que saúdo todos os falantes da língua portuguesa. Num contexto global marcado por crises múltiplas e interconectadas, as línguas de comunicação global são um indispensável veículo de entendimento e de esperança. E são também um lugar de resistência contra quem pretende disseminar o ódio, a exclusão, a violência, o extremismo e a misoginia e discriminação.
Jorge Barreto Xavier, uma reação, bom, resumidamente, eu acho que António Guterres disse muita coisa, não?
É verdade. O secretário-geral das Nações Unidas é, de facto, um orgulho a um português e tem procurado sempre promover a paz e o entendimento, que é uma mensagem absolutamente fundamental nos dias em que vivemos.
Neste ano houve finalmente o reunido de forças, com efeito a Embaixada de Portugal e a Embaixada do Brasil em Paris cederam conjuntamente esta data e com a participação dos seus institutos culturais respectivos, Camões, Centro Cultural Camões Português em Paris e o Instituto Guimarães Rosa. A programação, salvo da minha parte, começa às 14h30. O que é que está previsto durante toda esta tarde?
Ora, de facto, conjuntamente Brasil e Portugal estão a organizar na Embaixada do Brasil o 5º Encontro de Professores de Língua Portuguesa, Literaturas e Culturas Lusófonas. Este encontro que o Brasil iniciou já há alguns anos e que desta vez estamos a fazer juntos, é para nós um orgulho podermos trabalhar juntos na celebração de uma língua que é comum, e vamos de facto ter aqui um encontro em que um conjunto de autores, um conjunto de académicos vão debater questões da língua, e este espaço de debate e de partilha culmina com a reprodução de um podcast que nós esperamos que vocês também possam passar, de celebração de textos da língua portuguesa de autores portugueses e brasileiros.
Sim, com efeito, recebemos o som, mas embargo até o dia 5 de maio. Ora, vai decorrer, no quadro desta comemoração do Dia Mundial da Língua Portuguesa, o 5º Encontro de Professores de Língua Portuguesa. Ora, numa altura em que o ensino da língua portuguesa em França atravessa grandes dificuldades, eu sei que é o Conselheiro Cultural, diretor do Instituto Camões, o ensino não está sob a sua alçada, mas já tem o sentimento, já está aqui em França há um certo tempo. Qual é o seu sentimento relativamente a isso? Porque aqui houve a reforma do chamado BAC, houve a reforma do Liceu, e há quem diga, bom, que o português está a ser deixado de lado. Qual é o seu sentimento pessoal?
Olha, eu, como há de calcular, não estou aqui a título pessoal, estou aqui a título institucional, e obviamente é uma matéria que a resposta é importante ser dada pelo Sr. Embaixador de Portugal e pela responsável pelo ensino português em França. Não vou pôr foice em seara alheia, como se diz. De qualquer modo, como nós sabemos, nós somos uma comunidade em França que, entre portugueses e os outros gerentes, o número é sobre 2 milhões de falantes. Portanto, a língua portuguesa é uma língua muito forte e presente no espaço francês. Somos a maior comunidade de origem europeia em França e, obviamente, queremos celebrar e valorizar essa presença.
Aliás, a partir das 16 horas, talvez da minha parte, vai haver o primeiro painel, o ensino de português nas escolas francesas, perspectivas e desafios, entre outras que vão lá estar, a Isabel Sebastião, que é coordenadora do ensino de português em França, Camões, há que o referir. Ora, uma coisa extraordinária é que finalmente em Paris são a Embaixada de Portugal e a Embaixada do Brasil, mas um certo número de consulados e universidades por essa França fora vão igualmente assinalar esta data. Eu destaco duas grandes localidades, Estrasburgo e Lyon, onde a Rádio Alfa pode ser escutada, de maneira que houve todo um trabalho com o Instituto Camões de Paris.
Houve um trabalho, mas o mérito aqui é de facto dos respectivos consulados e universidades. Nós aqui o que estamos a promover é a divulgação desta informação para que haja consciência que o trabalho está a acontecer em toda a França, que a língua portuguesa está a ser celebrada em todo o território, nomeadamente em Lyon, nomeadamente em Estrasburgo, mas também em Bordeaux, mas também em Saint-Étienne, por exemplo. De facto, estas celebrações acontecem em diversos pontos do território, seja através de atividades envolvidas pela Embaixada, pelos consulados de Portugal, mas também pela Embaixada e pelos consulados e atividades associadas da Embaixada do Brasil.
Aliás, em Bordeaux, justamente o consulado, bom, para além do trabalho importante que são das livrarias Librairie Molat, precisamente em Bordeaux, onde vai estar presente a escritora portuguesa Isabel de Figueiredo. E depois há poesia e há dança igualmente neoclássica da Companhia Ilícita de Bayonne, e aproveito para saudar a Fábio Lopes, justamente, que é o diretor artístico dessa companhia. Significa que, quando se fala língua portuguesa, Concretamente, entre nós, a língua passa por muita coisa. Passa pela música, passa evidentemente pela poesia, pela dança. Finalmente, quer dizer, a língua portuguesa é universal e ao mesmo tempo pode ser divulgada através de diversas formas artísticas, não?
Sem dúvida. A língua é a base da criação de muitas artes. Obviamente do teatro, pode também estar presente na dança, sem dúvida na literatura e na música. Enfim, é um instrumento de trabalho e uma base de trabalho, uma matéria-prima de trabalho de muitas artes. Ao mesmo tempo, de facto, é também um extremamente importante na área económica e, naturalmente, um incentivo muito grande para que haja novos falantes. A língua portuguesa vai aumentar em largos milhões de falantes durante este século, seja na América do Sul, seja em África principalmente, e esperamos que o mesmo aconteça na Europa, através dos falantes do português em Portugal e em toda a Europa, visto que nós temos grandes comunidades espalhadas pela Europa e pelo mundo.
Com efeito, há um património cultural a defender. Uma última questão, Jorge Barreto Xavier, lembro, Conselheiro Cultural e Diretor do Instituto Camões Paris. Pelo segundo ano consecutivo, Portugal esteve na Feira do Livro, chamo-lhe Feira do Livro, é a minha maneira, aqui em Paris. Que balanço faz desta segunda participação?
Ora bem, nós estivemos ausentes durante alguns anos na Feira de Paris, voltando a estar presentes desde o ano passado. A nossa participação, creio eu, é importante porque nos permite projetar num espaço onde muita gente, mais de 120 mil pessoas por ano, em 3 dias concentrados, passam pelo Grand Palais em Paris para celebrar o livro e a leitura, e de facto podemos aí promover e apresentar livros em língua portuguesa e em língua francesa, livros traduzidos, que projetam a imagem de Portugal e que projetam a nossa cultura, a nossa literatura, o nosso conhecimento no contexto de França, num espaço prestigiante e que permita a um número muito alargado de pessoas acompanhar aquilo que é a nossa pujança em termos literários.
Sim, sem esquecer todo o apoio que é dado à tradução da parte das autoridades da cultura portuguesa, precisamente à publicação de livros aqui de ajuda aos tradutores e mesmo aos editores. Esta sessão, esta comemoração da Embaixada do Brasil em Paris, é aberta a todo o público ou é necessário reservar? Como é que se procede?
Ora bem, esta sessão foi desenvolvida de modo que os lugares são muito limitados. Neste momento já está esgotada. De facto, foram convidados para estar presentes, essencialmente, professores de língua portuguesa de vários níveis de ensino e estudantes de língua portuguesa de vários níveis de ensino, porque é uma sessão essencialmente dedicada a este público e, de facto, neste momento também já se encontra esgotada.
Daí a importância depois de podermos saber aquilo que se lá passou através do podcast, como eu referi há instantes.
O podcast é um podcast de celebração da língua, não é um podcast de informação sobre este encontro, mas certamente na sequência do encontro haverá uma informação sobre o resultado desse encontro.
É bastante importante, sobretudo, o futuro do ensino da língua portuguesa aqui em França. Muito obrigado e...
Eu que agradeço.
Obrigado e até uma próxima, então.
Obrigado.
Nem mais nem menos será o Dia Mundial da Língua Portuguesa, dia 5 de maio. Vai ser na próxima terça-feira. Temos já outra data. Outra data trata-se dia 14 de junho de 2026 e, com efeito, é a 12ª edição da Marche Course Solidaire. Bom, uma corridinha para aqueles que não querem correr, não há problema nenhum. Podem lá passar o dia, levar o piquenique, mas também têm lá comes e bebes. Mas, enfim. Mas antes disso, iremos falar da Assembleia Geral da Santa Casa de Misericórdia de Paris, connosco a provedora desta instituição, Ida Nunes. Muito boa tarde.
Muito boa tarde, Artur Silva. Muito boa tarde a todos os ouvintes. Peço desculpa pela minha voz rouca, mas é fruto do tempo.
Não, ouvi dizer que sim. Bom, não é a única, como diz a canção, dos Resistência. Mas enfim, ora, neste sábado, aliás, a Assembleia Geral decorreu no dia 19 de abril, foi apresentado o relatório. Podemos, talvez nos possa fazer um resumo desse relatório, porque as atividades, essas continuam, nomeadamente no apoio social contínuo, não é?
Claro, a nossa função principal é ajudar as pessoas no dia a dia, seja qual for a necessidade, pode ser simplesmente, às vezes, escuta, através do grupo psicólogos, e alimentos e tudo o que é administrativo. A Santa Casa está sempre disposta e pronta para ajudar as pessoas que fazem apelo a ela.
Ora, sobretudo vocês têm um atendimento telefónico 24 horas, significa 24 sobre 24, e presencial, como é que decorre uma coisa e a outra, como é que se passa exatamente? Porque presencialmente, lembro que a Santa Casa de Misericórdia e não tem sede própria, pois não?
Sim, já tem agora, já tem. A sede administrativa é em Arqueia. Portanto, desde já 2-3 meses, nós temos um escritório no 16 Roberto Alê, em Arqueia. Claro que é necessário antes passar por uma chamada à Santa Casa para fazer marcação. Aproveito para dizer o número de telefone: 0179-351103.
Eu repito,
0179-351103.
Bom, e vamos relembrar isso antes de terminar a entrevista. Bom, isso significa que vocês conseguiram resolver um problema. Eu sei que abordámos esse assunto durante, infelizmente, a situação arrastou-se durante largos meses, de maneira que desta vez, quer dizer, vocês já não estão unicamente dependentes dos membros da Santa Casa, não é?
Sim, claro. Pronto, este local é muito agradável, é num parque, temos, portanto, o escritório, mas não só, temos também um local para armazenar os produtos das recolhas e dos donativos que têm lugar várias vezes por ano. Há pessoas que têm um bom coração e que mesmo quando não é no Natal e na Páscoa, chamam-nos e dizem que têm produtos que podem doar, e as pessoas podem lá ir buscar ali. Claro, continua a haver a possibilidade de ir também a Puteaux, à Associação de Puteaux e a Puteaux Combon, mas a Santa Casa agora pode fornecer diretamente às pessoas que estão com dificuldades alimentares.
Mas Hilda Nunes, os transportes, tem autocarro, a ROR, a metro, qual é a melhor forma?
A ROR-B é duas estações, uma ou duas, depende na qual se quer descer, a partir da Cité Universitaire, é perto, portanto, e é no resto de chão, enfim, é no resto de chão, é no primeiro andar, mas é francamente fácil de acesso.
Ora, todos os anos nós acompanhamos isso e a Rádio Wolf apoia plenamente, que é a recolha de géneros alimentícios e de higiene, e vocês responderam centenas de pedidos também nessa área, não é?
Ah, claro, constantemente nós estamos sempre a ser solicitados, porque todos nós sabemos, não é? A situação atual não é das melhores e cada vez há mais pessoas que têm dificuldades ou que chegam há pouco tempo de Portugal, que pensam que vão encontrar imediatamente uma vida melhor, mas infelizmente não é o caso também, ou pessoas que já cá estão, que perderam o trabalho, que tiveram acidentes de trabalho, etc. Portanto, as pessoas, os motivos são diversos e variados, e nós tentamos sempre responder presentes para ajudar essas pessoas. Muitas vezes até pessoas que estão com grandes dificuldades e que vieram, mas que não podem ficar finalmente porque a família não os pode albergar, porque etc., e querem regressar a Portugal, muitas vezes até fazem apelo a nós para lhes pagarmos a viagem. É o que nós fazemos na medida das possibilidades. Claro, não podemos fazer isso todos os dias porque os financiamentos não são assim tão importantes, mas ajudamos, inclusive o Consulado-Geral de Portugal em Paris, que é solicitado muitas vezes por essas pessoas, dirige-se a nós para que nós façamos esse donativo, quer dizer, nós não damos dinheiro neste contexto, mas sim compramos o bilhete e entregamos à pessoa.
Ora, uma pessoa que tem problemas de habitação, porque sabemos que infelizmente, aliás, vocês têm, são vocês que se ocupam do talhão por português no cemitério de Enghien-les-Bains, salvo erro da minha parte. Precisamente as pessoas que têm problemas de habitação, até que ponto é que vocês podem ajudar? Bom, porque a Santa Casa não tem casas para alugar, não tem absolutamente nada. Vocês aí recorrem a quem para ajudar as pessoas?
A única solução é recorrer, por exemplo, a câmaras e pessoas que eventualmente nós conhecemos, mas não está fácil. Essa parte também é muito complicado hoje, encontrar um alojamento, na medida em que os preços são muito elevados e que as pessoas não têm nem sequer dinheiro para comer. Portanto, como deve imaginar, é muito, muito complicado. Mas, mesmo assim, conseguimos, de vez em quando, ajudar. Ajudámos, inclusive, uma senhora, não foi uma senhora, foi inclusive uma família, a mãe, a filha e neto e filho da filha, durante vários longos meses, e conseguimos que essa família pudesse estar albergada e já tem trabalho e pronto. Nunca é fácil, claro, mas conseguimos, e casos destes temos outros, claro.
E a propósito, precisamente, de trabalho, no vosso trabalho, também tem pedidos de emprego, pessoas que estão desempregadas, estão a viver uma situação difícil, e sabemos que a precariedade está a aumentar por esse mundo fora, inclusive aqui em França, sem esquecer Portugal. O emprego, vocês aí recorrem a quem? Às empresas que conhecem, lançam um apelo, como precisamente para tentar encontrar trabalho àqueles que se encontram desocupados, entre aspas.
Exatamente, quando as pessoas fazem apelo a nós para encontrar um trabalho, para já temos o Clube dos Empresários, o Clube dos 25, ainda não chegaram aos 25, mas agradeço, aproveito para, não temos tempo para estar a nomear cada empresa, mas eles o conhecem, se agradeço imenso a todas as empresas que aceitaram ajudar a Santa Casa a entrar nesse clube e pagar a cota devida, e cada vez que nós que nos solicitam para encontrar um emprego, claro, dirigimos-nos antes de mais a essas empresas, se a pessoa tem capacidades para trabalhar nesse setor. Mas tentamos sempre, se não forem esses outros, nós tentamos sempre ajudar nesse sentido, com certeza.
Ora, penso também que ao longo dos 32 anos de existência e de experiência da Santa Casa de Misericórdia, vocês organizam um apoio a detidos. Bom, é um envio simbólico, talvez, e material. São cerca de 210 reclusos portugueses que estão em prisões francesas, e este apoio simbólico é enviado durante a época natalícia.
Exatamente, quer dizer que cada consulado, nós dirigimos-nos a cada consulado de França, que depois fazem enfim, tentam, dirigem-se às prisões, desculpe, e para saber quantos detidos de origem portuguesa há, lusófonos, muitas vezes também, e portanto, que aceitam identificar-se, porque é necessário que as pessoas se aceitem identificar. Esse documento, depois de obtido junto das instituições prisionais, a chegar ao consulado, envia para nós, e nós depois enviamos um cheque com um montante referente ao número de detidos, e são 50 euros por detido. Não é a Santa Casa diretamente que faz esse levantamento, porque tem que ser o consulado, mas nós temos boas relações com os consulados de toda a França, e isso é feito cada ano, efetivamente. E também, agora tem sido até menos, mas também há detidos que nos enviam um correio, que há assim uma troca epistolar entre os detidos e pessoas da Santa Casa que respondem, que às vezes pedem também ténis, fatos de treino, etc., e que nós, cada vez que possível, enviamos.
Aumentado havia assistentes sociais que iam ver esses detidos. Bom, isto era numa altura em que havia assistentes sociais nos consulados.
Exatamente.
Estou a pensar aqui em Paris, havia três consulados, não é? A Nogent, Paris, e agora também...
Versailles.
Igualmente. De maneira que já... Não há assistentes sociais que falam português, que vão ver esses detidos, tudo isso acabou?
Digamos que ultimamente, já há largos anos, não é ultimamente, há largos anos isso acabou. Acabou, quer dizer, não se tem feito, mas precisamente a nossa cónsula geral, que infelizmente vai-se embora, mas teremos um outro ou uma outra que vem a fazer o mesmo trabalho e que será certamente tão eficaz como os precedentes. Tínhamos previsto precisamente e já estava uma correspondência a ser, já foi enviada, etc. Estamos à espera de respostas e esperamos poder ir visitar alguma prisão na região parisiense, em todo o caso, na primeira fase.
Ora, bom, é um balanço extremamente positivo, mas há algo de negativo, e eu insisto cada vez que tenho a ocasião de entrevistar um representante da Santa Casa de Misericórdia de Paris, é os voluntários ativos. Quer dizer, vocês, aliás, lançaram um apelo, mais um apelo, para um aumento, precisamente, do número de voluntários ativos. Bom, uma coisa certa é que essas são benévolos, há que tu referir, o trabalho é benévolo, mas são os pilares da própria instituição.
Sem os voluntários não haveria instituição. Atualmente nem assalariado temos, portanto, como deve imaginar, se não houvesse a disponibilidade e o bom coração dos voluntários, a Santa Casa não continuava, não podia continuar a ajudar quem precisa. Já agora, aproveito para deixar aqui um apelo a todas as pessoas de boa vontade. Eu digo muitas vezes, não é a quantidade de horas que se dá, é a disponibilidade, pode ser por vezes só uma hora até por mês, uma hora por semana, mas se nos der os 100% dessa hora, nos der, quer dizer, que venha atuar, que venha a estar disponível para as pessoas que precisam de ajuda. Nós precisamos cada vez mais de voluntários, de pessoas que se sintam implicadas junto dos irmãos e irmãs, porque, como eu costumo dizer, somos todos irmãos e irmãs neste mundo, seja o país, seja a língua que se tem, somos todos irmãos.
Ora, é bastante importante também porque, bom, vocês têm psicólogos, vocês têm um certo número de pessoas que têm competências na sua vida profissional, e essas competências mais variadas seriam bem-vindas precisamente porque, finalmente, nada melhor do que dar uma ajuda no capítulo que nós conhecemos melhor e que nós lidamos com ele diariamente, não?
Exatamente, todas as pessoas, de qualquer forma, mesmo pessoas que às vezes dizem, mas eu não fiz estudos, não sei. Todos nós temos experiência de vida, todos nós atuamos e todos nós podemos ajudar em diversos setores. Não é necessário que sejam, não é necessário e nem seria produtivo, não seria positivo que todos tivessem as mesmas disponibilidades, as mesmas competências. Todos nós podemos ajudar, às vezes só saber escutar, porque muitas pessoas, por vezes, não precisam sequer de ajuda financeira ou de ajuda alimentar, precisam de ser ouvidos. Há muitas pessoas que estão sós e se nós tivéssemos mais voluntários, iríamos mais ao encontro de pessoas que estão hospitalizadas, que vivem sozinhas, etc. E isso é, francamente, um objetivo, um desejo, um objetivo de chegar a esse ponto de ter muito mais voluntários que possam visitar as pessoas e ao mesmo tempo não só ouvi-las, mas ajudá-las em preenchimento de dossiês, etc. Que não, as pessoas não teriam que se deslocar, por exemplo, ao escritório. Podemos também ir, mas para isso temos que ser mais.
Com efeito. Isto é, quer dizer, um dos objetivos precisamente da Santa Casa da Misericórdia é promover uma sociedade mais inclusiva e solidária. É a propósito solidária, a Marcha Corrida Solidária é a 12ª edição já lá vão 12 anos, mas enfim, dia 14 de junho, como já é hábito, Domaine de la Cour au Long, Juiz José, seu departamento 78. Pois bem, é uma corrida anual, mas é acima de tudo, estou a citar um documento vosso, um momento de partilha e solidariedade, aqui não há pressão, cada um avança ao seu ritmo, seja a correr ou a caminhar.
Exatamente. É correr para a misericórdia é passar um bom momento em família, com amigos e participar também na ajuda a quem precisa. Porque há uma inscrição, mas o montante não é enorme, mas vai-se passar, como cada ano, vai-se passar um excelente momento, porque vai haver animação de grupos folclóricos, vai haver restauração à hora do almoço, as pessoas podem lá almoçar, os preços nunca são muito elevados. Este ano, inclusive, vamos ter um padrinho, ex-jogador de futebol do Benfica e do Paris Saint-Germain, o futebolista Valdo, que virá para estar connosco nesse dia. E francamente é um momento de lazer ao ar livre. Hoje não está assim muito sol, mas no dia 14 de junho vai certamente estar sol, e vamos passar ali um momento maravilhoso todos juntos. Vai haver, portanto, a corrida ou a marcha de 4 ou 8 quilómetros. As pessoas, todos vão ter uma medalha este ano. Decidimos que todos teriam uma medalha e, claro, depois haverá os troféus para aqueles que correm mais rápido.
Eu queria aproveitar para dizer às empresas, que, bom, só o representante que está a escutar, é que eles podem ir com uma equipa. E agora parece que não, é uma grande ajuda, porque tudo aquilo que couber como dinheiro vai, evidentemente, ajudar basicamente aqueles que estão mais em situação difícil.
Com certeza. Olha, já agora aproveito para dizer que a Caixa Geral de Depósitos, e quero aqui agradecê-los diretamente, já inscreveram 50 pessoas e vão fazer também um donativo. Todas as empresas, inclusive, podem inscrever 3 ou 4 pessoas, eles são 50, mas podem ser menos, e efetivamente é uma maneira das empresas ajudarem a Santa Casa. Naquele dia, à partilha, à bem-estar, à desporto, a tudo e mais alguma coisa. Francamente, claro que há empresas que não têm tantos funcionários, mas que sejam só 2 ou 3, e podem levar t-shirts com a informação sobre a empresa, etc. Portanto, peço que todos se mobilizem para que no dia 14 de junho, a partir das 10 horas da manhã, vai ser certamente a partir daí que começam, Domaine de la Cour Rolland, em Juillan-Josas, como disse há pouco, no 78, vai ser um momento alegre, com muita... Não disse aqui nomes de intervenientes, mas a banda Imprevistos vai lá estar, os Bombos de Santo André, a Associação Cultural de Franco-Portuguesa de Verizi, vai haver ainda outra banda. Pronto, vai ser um momento muito simpático.
Festivo e solidário. Teremos a ocasião daqui até lá, bom, porque é no dia 12 de junho, hoje ainda estamos no dia 3 de maio, mas voltaremos ao assunto, evidentemente, e de outras emissões também da Rádio Ovo, estou a pensar agora no Espaço Aberto. Mas obrigado, Hilda Nunes. Duas informações: o padrinho da 12ª edição é o antigo jogador do Benfica e do Paris Saint-Germain, Valdo, que vai estar presente. E outra informação, a sede da Santa Casa da Misericórdia, 16 Rui Berthelot, em Arcueil, o ROB, a estação é Arcueil, e o número de telefone 0179-3511-03, penso que está tudo correto, não, Hilda?
Está tudo corretíssimo, obrigada, Artur.
Obrigado eu, e evidentemente que daqui até lá voltaremos ao assunto, sobretudo com o responsável organizativo desta marcha solidária, e sabemos que ele tem bastante trabalho. Muito obrigado. Obrigado, Hilda Nunes.
Obrigada, obrigado. Até breve. Obrigada.
E já que falamos justamente em solidariedade, há 2 dias atrás foi o dia 1 de maio, Jornada Internacional de Luta dos Trabalhadores. E quem fala de rock português, talvez possa surpreender muita gente, mas aborda muitas vezes talvez não sejam as suficientes, mas enfim, muitas vezes as suas letras, questões de sociedade, tal como o grupo UHF, que foi criado em 1978, que no seu 15º álbum de estúdio, já data de 2013, tem como título A Minha Geração. Eu permito citar um extrato da entrevista que deu o vocalista e cofundador dos UHF, António Manuel Ribeiro, entrevista ao Correio da Manhã Vidas, datado do 24 de agosto de 2013. Ele disse, dois pontos, citação: é um disco de um cidadão inquieto, de um compositor, de um escritor de canções, atento ao país e ao momento que vivemos. É um disco de alguém que está muito cansado por todas as promessas que têm sido feitas ao longo dos tempos e por este declínio constante. Portugal parece um buraco, um barco a afundar, que nunca mais se afunda. Vamos flutuando a meter água. É este o estado de existência contra o qual este disco muitas vezes ruma. Isto foi dito em 2013, A Minha Geração, com UHF.
A minha geração, a minha geração, a
O HF, a minha geração, uma canção que já data de 2013, mas que infelizmente continua atual. E agora vamos falar de um livro, Le Grand Livre de Saint-Cyprien, Le Trésor de la Sorcellerie, édition Chandaigne Lima, de novembro de 2024, tradução de João Viegas. A entrevista que vamos ouvir foi feita em direto por telefone dia 9 de março de 2025. João Viegas, advogado, jurista e tradutor, faleceu no dia 12 de abril último. Evidentemente, todos os nossos sinceros pensamentos vão para Ana Lima, igualmente para as suas filhas. Deixamos a entrevista tal como ela foi difundida em direto no dia 9 de março de 2025. Eh bien, mes amis, attention. Attention, on va parler de sorcellerie. Elle n'est pas noire. Bon, peut-être que ce sera un petit peu noir, mais ça, on verra. C'est au sujet du livre Le Grand Livre de Saint-Cyprien, ou Trésor de la Sorcellerie, édition Chandaigne Lima, traduction et édition de Sylvie Ogea. Jean Viegas, bonjour, et merci d'être en direct sur Radio Alpha.
Bonjour, merci de votre invitation.
Alors, c'est vous qui avez fait la présentation de ce livre à la librairie portugaise et brésilienne, rue de Fossé-Saint-Jacques, à Paris 5e. Ce livre, finalement, c'est un livre qui, bon, il y a combien de siècles? Est-ce que c'est vraiment, ça, il a existé, ce sont ces prières ou pas? Bon, parce qu'on est un petit peu dans le brouillard à propos de sorcellerie.
Oui, alors, le livre lui-même, et c'est une originalité, c'est le livre de référence de sorcellerie dans le monde ibérique, hein, alors que dans le monde français, vous avez tout un ensemble de grimoires anciens également, datant du 18e, 19e siècle au Portugal, en Espagne, dans les pays de langue ibérique, américain, vous n'en avez qu'un seul. Et c'est ce livre de Saint-Cyprien qui est un livre essentiellement dans la version qu'on connaît aujourd'hui, la version la plus ancienne, c'est une version portugaise qui est à la Bibliothèque Nationale, qui date du 19e siècle. Quant à Saint-Cyprien lui-même, en réalité c'est un saint qui n'a pas existé, c'est donc un personnage fictif, mais c'est une légende très ancienne du monde gréco-turc, c'est d'Antioche, c'est Saint-Cyprien d'Antioche, Antioche en Turquie, pas Antioche en Syrie, et c'est un magicien qui aurait essayé de séduire une chrétienne et s'apercevant, Sainte Justine en l'occurrence, et s'apercevant que ses pouvoirs ne pouvaient rien devant la protection du vrai Dieu, il a fini par se convertir et par mourir en martyr. C'est une histoire qui n'est pas une histoire réelle, mais une histoire, une légende, et elle a été très, pour des raisons qu'on connaît très peu, elle a été très populaire dans le monde ibérique, en Espagne, au Portugal, et vous avez beaucoup de localités qui s'appellent Saint-Cyprien, vous avez, pour le public de Radio Alpha qui connaît bien la route de la France vers le Portugal, à Salamanque, vous avez une grotte de Saint-Cyprien où il y aurait eu des activités magiques. Donc voilà pour cet ouvrage et pour cette légende.
Alors, finalement, apparemment, la littérature, notamment au 19e siècle, a pris des choses, faisait des références à ce grand livre de Saint-Cyprien. Bon, il y a des grands écrivains, comme Leite de Vasconcelos, Adolfo Coelho, et même Camilo Castelo Branco, dans le livre Le Juif, sans oublier chez les folkloristes. Donc, ça se passe surtout au nord du Portugal, parce que vraiment, ces références-là, bon, ça donne à réfléchir quand même jusqu'à quel point quelque chose, bon, apparemment, bon, c'est une légende, peut avoir une implication directe avec même la littérature, la grande littérature, entre guillemets.
Oui, alors, c'est en fait le livre Saint-Cyprien, il a une réalité ibérique, il existe en plusieurs langues, il est très très publié depuis le 19e siècle, je l'ai dit tout à l'heure, en Europe, mais aussi en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, pardon, en Amérique latine, mais il a une, c'est quand même, il est très localisé, c'est un livre de folklore galicien, c'est-à-dire galego, comme on dirait en portugais, et plus précisément d'une région assez précisément démarquée qui est très proche de la frontière portugaise vers Oriens. C'est une région aussi, les Galiciens étant des Celtes, c'est une région dans laquelle il y a une grande présence de légendes et de traditions magiques que vos auditeurs connaissent peut-être. Il y a beaucoup de Portugais de France qui sont originaires de Trás-os-Montes et qui sont originaires du Minho, et ils savent qu'il y a une tradition de masques, des caretos, il y a une tradition de esmengues, qui sont les fées, esmores encantadas, que l'on connaît aussi un petit peu plus au sud, vers la région de Serre de Sil, aujourd'hui, tout cela, c'est très caractéristique de cette région, qui est un peu la Brocéliande de la péninsule ibérique, c'est-à-dire cette espèce de région avec des tas de traditions magiques. Et évidemment, pour répondre à votre question, ce folklore-là a également débordé et été exprimé par la littérature, en particulier, bien évidemment, on pense à lui d'abord, par ce grand écrivain du Nord et de Trasmont, enfin, en tout cas de toutes ces régions-là intérieures qui a été Camille Auguste Blanc, qui se réfère à ce livre. Alors, après, on n'a pas trop de... probablement Saint-Cyprien, comme c'est une légende sur un magicien, il y a des prières de Saint-Cyprien et son association à la magie est ancienne, mais il est vrai que si on veut remonter plus loin que le 19e siècle, on ne trouve pas beaucoup de choses, étant précisé quand même qu'en Espagne et au Portugal, il y a quand même une chose qui est importante, c'est que avant le 19e siècle, il y a l'Inquisition. Donc, il était hors de question de publier un livre de sorcellerie avant. Donc, si ce livre a eu une existence antérieure au 19e siècle, c'était des manuscrits, c'est invérifiable, et aujourd'hui, on en a quasiment perdu la trace. Donc, ce que l'on a, et ce que répertorient les folkloristes, la littérature, etc., c'est ce livre 19e siècle, de magie, que nous avons reproduit, et qui, dans le monde ibérique, présente cette originalité d'être quasiment un livre unique.
Dans le livre, on trouve un certain nombre de sortilèges, mais également des recettes. Bon, ça donne à réfléchir. Alors, je prends la recette pour être heureux dans les choses que l'on entreprend. Prendre un crapaud vivant, lui couper la tête, etc., etc. Oula, cette recette est un peu compliquée, Jean-Vierge.
Bien sûr, ce sont des recettes. Alors, la magie est ambivalente et on peut la présenter comme étant une sorte d'obscurantisme. On dit la pensée magique, ou pensamiento magico, c'est-à-dire une espèce de d'enfantillage qui tâtonne et qui n'arrive pas à bien avoir la rigueur que nous connaissons aujourd'hui avec la science. Mais c'est aussi en fait une sorte d'enfance de la science et donc aussi une première démarche de recherche des causes, ce qui explique que, vous ayez dans toutes les traditions, que c'est toutes les latitudes, pas uniquement évidemment dans le monde ibérique, vous ayez tout un ensemble de choses qui sont intermédiaires entre des médicaments déjà scientifiques et puis des filtres où l'effet placebo est allié à des traditions dont immémoriales et qui pour certaines ne sont pas complètement à côté. Alors évidemment les yeux cousus de crapaud, ça n'a jamais fait du bien, mais à côté de ça, vous avez des références à des herbes qui ont des vraies vertus médicinales. Donc, c'est un mélange qui, évidemment, nous fait aujourd'hui sourire, mais qui est présent dans toute culture, est encore présent, et aujourd'hui encore, c'est la raison pour laquelle le livre continue d'être publié, vendu, et donc vous avez, alors on les appelle plus des sorciers, mais vous avez des curandeiros dans toutes les sociétés, vous en avez à Paris d'ailleurs, hein.
Oui, tout à fait. Mais finalement, Jean-Viegas, au milieu de tout ça, il y a cette nombre de croyances populaires qui existent encore aujourd'hui. Mais par rapport aux médicaments, etc., bon, tout le monde connaît les remèdes de grand-mère.
Exactement, tout le monde connaît les remèdes de grand-mère. Et les gens qui connaissent bien les médecins vous diront, je suis moi-même fils de médecin, et ils vous diront que certains médecins avec un réalisme virant au cynisme, vous expliquent que la médecine c'est l'art de distraire le patient pendant que la nature opère. Donc si vous voulez, il y a des sorciers dans des coins les moins soupçonnables possibles.
Merci Jean-Viegas, je rappelle deux grands livres de Saint-Cyprien, au trésor de la sorcellerie, édition Chandaigne et Lima, alors traduction et édition de Siovje Ogea. C'est pas facile à dire. Bon, il s'agit également d'une édition illustrée. Je vais essayer de préparer une des recettes, c'est pas sûr que j'arrive à trouver tout ce qu'il faut mettre dedans. Aujourd'hui, c'est pas évident. Peut-être qu'à l'époque, c'était plus facile, mais enfin. Bon, merci pour l'invitation. Jean-Viegas, bon, on peut rêver aussi, des fois, à l'impossible, non?
Tout à fait.
Merci Jean-Viegas, merci.
À vous.
Interview réalisé en direct par téléphone le 9 mars 2025. Jean Viègues, avocat, juriste et traducteur, est décédé le 12 avril dernier. Toutes nos sincères pensées pour Anne-Lim et à ses filles.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa. Passagem de Nível. Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
Et deuxième heure de passage à niveau, ce dimanche 3 mai, et dans quelques instants, on espère bien aller au cinéma. On verra. Entre-temps, il y a plein de choses qui se passent ici à Paris, notamment au niveau de théâtre Chantier d'Europe, et Portugal est également présent. Il s'agit de Guillaume pour un pays possible, scénario pour un pays possible de Sarah Barouge-Leitan. Eh bien, ça sera le 4 mai et le 5 mai au Théâtre Les Abbesses ici à Paris. Mais déjà, bon, un grand salut à nos auditeurs de la région de Lille. En effet, on va parler d'un cycle Nouveau Cinéma Portugais 2025-2026, et on va parler exactement de la 4e séquence Propagande, critique de la propagande. Tout a débuté le jeudi 19 mars et va se prolonger le jeudi prochain, le 7 mai. Jacques Lemire, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être en direct avec nous. Donc, vous êtes coprogrammateur et co-animateur de Nouveau Ciné-Club, club. Alors, ce cycle, ou cette séquence propagande critique de la propagande, tout a commencé avec un film de l'époque fasciste de Antonio Lopes Ribeiro, La Révolution de Mai, Révolution de Mai. Oula, là, ça, on nous avait fait plonger dans les sombreurs du régime fasciste, Monsieur Lemire.
Oui, alors en fait, il s'agit d'un cycle qui couple à chaque fois deux films dans une situation historique donnée. Mmh. Donc, je rappelle juste qu'avant de s'intéresser ce printemps au salazarisme au Portugal, on s'est intéressé à la formation des États-Unis d'Amérique, à la colonisation de l'Algérie par la France, au nazisme en Allemagne. Et voilà, on s'intéresse au salazarisme au Portugal. Et comme vous le soulignez, dans le couplage entre un film de propagande et un film de critique de la propagande, nous avons retenu pour propagande ce film, La Révolution de Mai, à Révolution de Mayo, Antonio López Ribeiro, 1937, qui est, je pense, dans l'histoire du cinéma portugais, le film de propagande par excellence. C'est-à-dire un film qui est directement commandé par ce qui s'appelait à l'époque le SNP, le Secrétariat National à la Propagande, qui est commandé à Antonio López Ribeiro, qui est ce qu'on appellera un cinéaste de régime, c'est-à-dire que sa proximité avec le régime est vraiment de très forte intensité, et qui va partager l'écriture du scénario du film La Révolution de Mai avec Antonio Ferro, qui est ni plus ni moins le responsable de ce secrétariat national à la propagande. Les deux hommes signent avec des pseudonymes l'écriture de ce scénario. Le film La Révolution de Mai a été entièrement financé par le régime. Et il s'inscrivait dans la célébration des 10 années du coup d'État militaire du 28 mai 1926. Donc le film est supposé se passer en 1936. En réalité, il a été sorti au Portugal en 1937. Et il articule à la fois des séquences de fiction autour du personnage d'un homme qui est supposé portugais, communiste, installé à l'étranger, de retour au pays pour fomenter une révolution, et des scènes d'actualité qui sont filmées pendant la célébration des 10 ans de l'anniversaire des 10 ans 1926, donc filmé en 1936, et notamment à Braga, d'où est parti le coup d'État militaire de 1926, avec le fameux discours de Braga, très très célèbre prononcé par Salazar, qui est ce discours qui contient ces phrases « Nous ne discutons pas Dieu, nous ne discutons pas la patrie, nous ne discutons pas la famille. »
Alors justement, ce vous me permettez, Jacques Lemire, parce que on va écouter justement, la bande-annonce, elle est très courte, hein, ça fait 27 secondes, mais on va l'écouter. D'ailleurs, c'est la bande-annonce du film « Dieu, patrie, autorité ». Mais on va écouter la bande-annonce, si vous voulez bien.
Très bien.
Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio.
Effectivement, ça fait 19 secondes. Donc, je voulais poursuivre, Monsieur Jacques Lemire.
Mais ce sont 19 secondes absolument essentielles, et je vous remercie d'être allé chercher cette archive sonore, parce que ce sont exactement les 19 secondes du discours de Salazar que Ruy Simões, donc en 1975, décide de reprendre pour en fait les déconstruire, et les déconstruire dans une atmosphère qui est en 1975, puisque le film est réalisé en 1975, je parle de Dieu, patrie, autorité, de Ruy Simões, les déconstruire en étant dans une entreprise de montage critique d'images et de sons d'archives. Le film de Ruy Simões en 1975 est le premier long-métrage portugais qui entreprend de reprendre, de travailler les archives qu'on peut trouver à la RTP, c'est-à-dire qui a gardé des documents d'actualité.
Incroyable. Alors, monsieur Jacques Lemire, là où on arrive, justement là où je veux arriver, c'est le cas de dire, je m'excuse, cette redondance, mais enfin, donc, justement, Dieu, patrie, autorité, Deus, patrie, autoridade, de Ruy Simões, va être projeté, hein, que je dise pas de bêtises, le jeudi 7 mai à 20h, au cinéma Le Méliès, Villeneuve d'Ascq, métro Triolo, ligne 1, donc, tout ça qui habite à Lille, même peuvent y se déplacer. Alors, il faut dire que ce film, bon, donc, ça fait 50 ans qu'il a été...
Il a 50 ans. Il est sorti le 21 février 1976 à Lisbonne, au cinéma Universal.
Voilà. Donc, il faut peut-être voir le contexte. Parce que le film, il est sorti pendant ce qu'on appelait le PREC, processus révolutionnaire en cours. Donc, à partir de là, quelle était la démarche exactement, vous avez déjà commencé à expliquer, de Ruy Simões, parce que bon, c'était un film, comme dire l'autre, bon, critique la propagande, mais plus que ça, parce qu'il y avait une réalité, le régime avait été, il avait été renversé par un coup d'état militaire.
Oui, alors écoutez, c'est effectivement il y a une intention de montage critique d'images et de sons d'archives. C'est-à-dire, il s'agit de déconstruire dans l'esprit de Ruy Simões ce discours exactement centré sur ces trois références qui sont édifiées par le salazarisme en valeur suprême, Dieu, la patrie, l'autorité. Donc il a cette intention. Bien évidemment, il le fait dans un contexte. Il le fait dans un contexte d'une révolution populaire qui a débordé le coup des capitaines. Il faut se souvenir que le 25 avril à l'aube, dans un des premiers communiqués de ce qui va s'appeler le mouvement des forces armées, il y a cette phrase qui dit habitants des villes, restez chez vous, restez tranquilles, nous occupons de tout. Il y a l'idée que les militaires ont l'idée que le matin du 25 avril, ils peuvent faire le travail de déposer le régime, mais ils sont très très vite débordés par une mobilisation populaire qui est à la fois un mélange d'enthousiasme pour voir le régime chuter et en même temps de prise de liberté et de prise d'initiative, puisqu'il faut quand même se rappeler que il n'était pas prévu de s'en prendre à Lapide, mais il y a un rassemblement populaire devant l'immeuble de Lapide à Lisbonne. C'est là d'ailleurs qu'il y aura les morts du 25 avril, quand Lapide va tirer du haut de l'immeuble sur la foule qui est rassemblée. Il y a les rassemblements devant la prison de Cassis pour demander la libération des prisonniers politiques, qui n'avaient pas été considérés comme une tâche du jour urgente par le MFA. Donc c'est dans ce contexte de cette révolution qui va aller jusqu'à... Alors, il y a deux façons un peu de la clore, cette révolution. Soit on la clôt à partir du moment où, dans les villes, les mouvements populaires et à caractère révolutionnaire se s'éteignent. Donc, à ce moment-là, ça va être le novembre 75, avec la stabilisation électorale de 1976. Soit, éventuellement, on considère que toutes les occupations par les paysans du Sud, les paysans sans terre qui ont fait les occupations de terre et les coopératives dans la Lentège font partie de ce processus. Et à ce moment-là, en réalité, les choses rentreront dans leur rang complètement au début de 1979. Donc quand Rouy-Simonge fait son film 75-76, il est dans cette atmosphère et il va lui-même prendre la grille idéologique marxiste pour se livrer à cette exploration des trois mythes de Dieu, de patrie et de famille, enfin ce qui sont pour lui des mythes fondateurs du salazarisme. Donc c'est un film qui est à la fois dans la déconstruction des archives. Rouy-Simonge dit il s'agissait de faire danser les mêmes images d'une autre manière. Et en même temps, c'est lui-même un document dont on pourrait aujourd'hui regarder la construction idéologique, puisque finalement, il s'agit de dire aux gens qui vont voir le film que la chute du fascisme ne signifie pas la fin du capitalisme. De la même façon que la chute de la monarchie en 1910 n'a pas signifié la fin du début du capitalisme portugais.
Alors, il y a tout un contexte parce que bon, on a déjà fait, j'ai fait plusieurs interviews parce qu'il y a des universitaires qui ont fait des livres sur les ciné-clubs portugais, sur la censure, les cinémas portugais, etc., etc. Mais à cette époque-là, bon, il y avait aussi un mélange entre c'est-à-dire, on savait pas, à un moment donné, les réalisateurs, ils étaient plus libres parce que ceux qui tenaient les cordons de la bourse, bon, apparemment, ils seraient liés au PC, c'était le PC qui contrôlait tout ça, et au moment donné on disait bon, tu t'es pas un cinéaste, tu fais de la propagande tout court. Rouy-Simonge, comment est-ce qu'il se situe au milieu de tout ça?
Rouy-Simonge, il est né en 1944, il a émigré à Bruxelles en 1966, il fait partie de ces jeunes qui refusent le régime, refusent aussi la mobilisation de la guerre coloniale. Il revient en 1974, ce que ont fait beaucoup de jeunes. Je connais d'autres cas de jeunes cinéastes portugais de l'époque qui étaient à Bruxelles. Je pense en particulier à José Álvaro Moraes qui va revenir lui aussi en 1974. Il a étudié le cinéma à l'IAD, l'Institut des Arts de la Diffusion, qui est une des deux écoles de cinéma importantes à Bruxelles à cette époque. Et donc, il se situe, lui, dans une prise de liberté complète par rapport à cette... jouir au maximum de la liberté retrouvée. Alors, c'est vrai, vous avez raison, il y a beaucoup de débats idéologiques dans les milieux du cinéma à cette époque. Il y a eu déjà un film qui a été filmé autour des journées qui se sont disposées entre le 25 avril 1974 et le 1er mai 1974, Als Armes et aux pauvres, les armes et le peuple, qui est un film collectif. C'est un mouvement dans lequel les cinéastes vont mettre un petit peu l'ego personnel de la signature de l'auteur en arrière et mettre en avant l'organisation en coopérative avec aussi une sorte d'égalisation du rôle entre les réalisateurs réalisateurs et les techniciens. Donc c'est un film collectif et il donne assez bien la tonalité de ce que Jean Bernard d'Acoste, dans un livre de 1991 qui avait été fait Histoire du cinéma portugais pour Europalia à Bruxelles, parle de documentaire d'agit-prop. Donc effectivement, ce sont des documentaires d'agit-prop qui ne cachent pas du tout leur orientation idéologique. Mais en même temps, parmi ceux-là, il est probable que celui de Ruy Simon est de ceux qui ont eu le plus grand succès public, enfin la plus grande circulation à travers le pays.
Effectivement. Alors, Jacques Lumière, je cite d'ailleurs, merci de m'envoyer la feuille de salle de la projection du film. Bon, ça a été du film du 1er avril 2014, ça ne date pas d'hier, la cinémathèque portugaise à Lisbonne, mais enfin, c'est très important. Pour Simões, citation, un film révolutionnaire n'est pas un film qui filme la révolution, mais un film qui analyse les inégalités sociales, les conflits, les victoires et les déroutes, les problèmes, les hésitations et leurs conséquences. Donc c'est une vision plus large de la société finalement.
Oui, ce que vous citez, c'est une citation de Thiago Batiste. C'est intéressant générationnellement parce que Thiago Batiste est un historien portugais du cinéma qui fait partie d'une génération plus jeune que la génération qui a été contemporaine du 25 avril. Et il souligne, il dit d'ailleurs un peu plus loin dans le texte que il est aujourd'hui le directeur de l'ANIME, Thiago Batista. L'ANIME, c'est l'Agence nationale des archives, enfin c'est l'institution des archives nationales des images en mouvement. C'est la partie archivistique de l'activité de la Cinémathèque portugaise. Et donc il est aujourd'hui directeur de l'ANIME. Et il dit c'est un des films les plus intéressants de cette période. Et en même temps, il ajoute parce qu'il n'insiste pas tant sur le registre de la révolution que sur les raisons pour lesquelles elle a failli. C'est-à-dire que d'une certaine façon, il y a dans le film de Ruy Simões une sorte d'appel à prendre la mesure de la profondeur des structures de la société qui était derrière ce régime salazariste et qui peut d'une certaine façon garder encore de la puissance malgré l'épisode révolutionnaire.
En effet, bon, quand on voit la situation aujourd'hui au Portugal, bon, je reste au Portugal, bon, en France, etc., dans tout un tas de pays, n'est-ce pas? Au Portugal, l'extrême droite raciste, xénophobe, c'est le deuxième parti à l'Assemblée de la République, ça donne à réfléchir, effectivement. Monsieur Jacques Lumière, je vous remercie. Donc, le rendez-vous, ça sera le jeudi 7 mai à partir de 20h pour voir le film Dieu, Patrie, Autorité, Deus, Patrie, Autoridade. Cinéma Le Méliès, Villeneuve d'Ascq, métro Triolo, ligne 1. Donc, c'est tout près de Lille, alors.
Oui, c'est tout près de Lille et c'est relié par une ligne de métro qui en quelques 10 minutes vous met de la station de la gare centrale Lille Flandre au pied du cinéma.
Voilà. Merci, Monsieur Lemierre, et merci pour votre travail, parce que je l'ai pas dit encore à nos auditeurs, mais vous êtes le plus grand spécialiste en France du cinéma portugais. Il faut le dire quand même, et c'est la vérité, hein, mais enfin.
Si vous le dites, je ne peux pas me permettre de le dire, mais non. Si vous le dites.
Bah, complètement.
Je vous remercie, en tout cas.
C'est moi qui vous remercie, et vous le prouvez dans vos actions. Je vous remercie. Et maintenant, on va faire une pause, mais une pause, musicale. Bon, le thème, je sais pas ça, c'est quelque chose à voir ou pas. État limite, le mot État, il a un double sens. Duarte, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez l'habitude d'écouter la musique de Duarte. Vous allez écouter cette guitare, bon son de bon son. Allons.
Chama-se Estado Limite e é o lugar onde estou. Não sei se parta, se fica. Nunca ninguém cá ficou. Chama-se Estado Limite e é o lugar onde estou. Não sei se parta, se fica. Nunca ninguém cá ficou. É dar o que não se tem.
Foi Duarte. Plus d'un siècle d'arrière, vers 1923. C'est au sujet du livre L'épaisseur de Raoul Brendan, édition Chandaigne à Lima, traduction de Elisabeth Montel-Rodrigues. Elisabeth Montel-Rodrigues, avant tout, bonjour.
Bonjour.
Alors, par rapport à ce livre, vous l'avez traduit. Bon, ça n'a pas été facile, mais ça, on verra un peu plus tard. Alors, il s'agit quoi ? Avant de parler du livre, est-ce que vous pourriez nous faire un petit portrait de Raoul Brendan, 1867-1930, et un résumé, quels sont ses principaux ouvrages?
Alors, Raoul Brendan donc, est petit-fils de pêcheur, et il est considéré comme le précurseur du modernisme au Portugal. Il est une œuvre composée de romans, de pièces de théâtre, de livres de voyage et 3 volumes de mémoire, et il a participé à un pamphlet qui s'appelle « Os Nos Solibates » en 1892. Et donc son roman le plus connu, c'est « Humus », qui a été traduit donc en français par Françoise Lay et qui a été republié aux éditions Chandaigne et Lima. Et ensuite, en français, on trouve également la pièce de théâtre « Le fou et la mort », traduit par Jacqueline Vital aux éditions de La Différence.
Il faut dire aussi que Raoul Brendan était journaliste. Alors finalement, on peut dire que ce livre, Les Pêcheurs, le livre date de 1923. C'est un genre de reportage au long du littoral portugais?
Oui, tout à fait. En fait, ce livre est composé de différents fragments, donc des mémoires, d'articles que donc Raoul Brendan a écrits pour le journal Oudir, et qu'il a commencé après une visite justement à Pelige de Mille. Et donc les différents textes qui composent ce livre sont datés de 1893 à 1923. Et donc il a sillonné le Portugal du nord au sud, et notamment ce qui est très très particulier, c'est que donc en fait il revisite donc les lieux de son enfance à Foch-Doudoune et toutes les personnes qu'il a côtoyées quand il était enfant. Donc c'est à la fois un livre de souvenirs et un livre sur le quotidien des pêcheurs portugais donc à cette époque. Donc il raconte leur vie, leur conditions de vie, leur lutte pour la survie, la force, le courage, et en fait il documente et il précise précisément les différentes techniques de pêche, les bateaux, les outils. Et donc c'est un livre vraiment d'une incroyable richesse qui tient à la fois de la géographie, de l'ethnologie, de la poésie, de la peinture. Et c'est ça qui est assez étonnant dans ce livre, c'est que donc on a à la fois donc des scènes extrêmement réalistes. Et on les voit, ces scènes de pêche, ces sorties en mer, le halage défilé par les gens sur la plage, la pêche à la scène de plage, des choses comme ça. Et en même temps, on a toute une description du paysage et de la couleur et de la lumière et donc de la peinture. Ce sont de véritables tableaux.
Alors finalement, on pourrait dire qu'il a fait un portrait social des pêcheurs, mais également des populations autour des ports. Mais en fin de compte, ce n'est pas la condition humaine vue par un poète voyageur.
Oui, tout à fait. Oui, c'est ça. Il a voulu vraiment nous faire vivre en fait ce qui est au sein de ces différentes communautés, de ces femmes. Et de ses hommes, de ses enfants. C'était des personnes extrêmement humbles et il y avait beaucoup de pauvreté. Et donc, ce qui est assez étonnant aussi, c'est que dès cette époque, en fait, il fustige la pêche industrielle et la pêche de subsistance. Donc, il y a déjà une défense aussi des populations de pêcheurs qui sont réduits à la pauvreté. Il dénonce aussi la raréfaction des ressources et des poissons. Et c'est vraiment un hommage, oui, à toutes ces communautés de personnes.
Vous venez de justement parler des femmes. Je pense que dans ce livre, il porte une attention particulière, ce qui concerne la condition des femmes. Alors, il faut dire que le livre date, je le rappelle, 1923. En quelque sorte, il a été un précurseur dans ce domaine, au niveau littéraire.
Disons que dans les activités de pêche, en fait, ce qu'il décrit, c'est que donc les hommes, ce sont eux qui sont en charge donc d'aller en mer et de pêcher, mais tout le travail sur la plage, la salaison, le séchage, la vente, le transport, tout revient ensuite. Le travail revient entièrement aux femmes, et donc elle travaille vraiment du matin au soir, et en plus elle s'occupe des enfants. Et d'ailleurs, il dénonce en ironie que c'est grâce aux femmes et au fait qu'elles ont de nombreux enfants que la balance commerciale du pays et du Portugal est positive. Il y a aussi beaucoup de une forme d'humour et d'ironie dans le texte de Blindin. Il dit également que la femme, c'est elle qui finalement dirige la maison et mène son mari à la baguette, notamment un hommage particulier à la femme de Nazaré. Voilà.
Je pense que vous ne l'avez pas fait, mais enfin, un siècle après, bon, 1923, on est en 2026, est-ce qu'on pourrait suivre le guide, entre guillemets, bon, j'appelle Raoul Blindin guide, essayer de trouver des traces du passé qu'on peut lire dans le livre? Je pense que bon, c'était un exercice qui est, c'est peut-être une bonne idée de le faire, non?
Oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, pour la traduction du livre, j'ai suivi, alors non pas sur les lieux mêmes, mais grâce à des images et à des vieux guides de l'époque et sur Internet. En fait, tout le voyage, tout du nord au sud de Raoul Blindin, tout à fait, oui, c'est tout à fait. Alors, bien sûr que les paysages ont changé et que les villes ont. Et les villages ont complètement changé, bien sûr, mais on peut tout à fait l'utiliser encore de nos jours, oui, tout à fait, je pense.
Regardons un petit peu devant l'avenir maintenant. Bon, 1923, ça y est, c'est passé, il y a longtemps. Alors, le 7 mai, vous allez présenter votre traduction des pêcheurs dans une rencontre qui aura lieu au port-musée de Douarnenez, c'est la Bretagne, et avoir un dialogue avec Henri Kérizit. Alors, Henri Kérizit, il a une particularité. Il a été l'initiateur de la collection de bateaux portugais, justement, donc c'est un fin connaisseur du patrimoine maritime lusitanien. Lui, il va animer la discussion. Là, ça va être très intéressant aussi.
Oui, oui, tout à fait. Ben, je vais rencontrer Henri Kérizit, que je ne connaissais pas, et qui a également réalisé des films sur les communautés de pêcheurs, mais plus tard, dans les années 60-70. Et donc la discussion, oui, va être passionnante. Je me réjouis de le rencontrer. Et parce qu'au port musée de Douarnenez, ils ont une catraille. Une catraille, donc c'est notamment un port d'Ouvervie. C'est une sorte de yole. Et c'est la plus commune des embarcations de pêche. Elle est à fond plat. Elle a des voiles latines et elle se distingue par... notamment la noirceur de la coque, du moins celle de pauvre d'Ouvervie. Donc oui, tout à fait, je me réjouis de cette rencontre. Ce sera l'occasion aussi d'évoquer les différentes techniques de pêche, de voir les ressemblances avec notamment le ramassage, la récolte des algues, donc en Bretagne. Puisque en fait il y a aussi beaucoup de choses qui m'ont inspiré évidemment dans la documentation sur la pêche, que ce soit à la sardine, la récolte des algues, des choses comme ça, pour pouvoir donc traduire au plus juste et au plus près ce livre très particulier.
Alors, il faut dire aussi que la rencontre sera suivie de la projection du documentaire Pêcheurs sans port 1952, c'est un film amateur de Marie-Louise Jacquelin qui a été conservé à la Cinémathèque de la Bretagne. Ça fait 15 petites minutes. Hein. Alors, ce documentaire, il offre un témoignage rare, il paraît, sur la pêche traditionnelle à Nazareth. C'est également le travail collectif des communautés littorales portugaises 1952. Parlons de quelque chose. Un mot encore, mais des mots, devrais-je dire. En effet, le texte en portugais des pêcheurs, vous dites dans la note de la traductrice qu'il est émaillé de régionalismes qui, pour certains, ne sont pas répertoriés dans aucun dictionnaire. Alors, question peut-être naïve de ma part, comment avez-vous procédé pour faire la traduction en français?
En cela, j'ai suivi tout à fait ce que fait Raoul Brindan. En fait, Raoul Brindan, dans ce livre, fait œuvre vraiment d'ethnologue, et vraiment il inventorie, il répertorie les termes lui-même. Donc, et souvent Raoul Blindin garde donc le mot le régionalisme en question, et ensuite il donne lui-même la définition du terme dans un portugais, on va dire, plus courant, ou en tout cas sa définition. Donc il a voulu vraiment que ces mots persistent et soient là jusqu'à aujourd'hui. Donc, évidemment, j'ai pas cherché à trouver une équivalence qui serait fausse ou qui contreviendrait même au dessin de l'auteur. Et donc, j'ai tout à fait suivi ce que fait Raoul Blindin dans le livre. Donc, et ensuite, il y a une autre difficulté aussi, c'est qu'en fait, effectivement, les mots techniques, notamment, peuvent changer d'une région à l'autre ou d'un village à l'autre. Voilà, donc c'est tout ce type de réseau et de difficultés qui sont vraiment qui étaient vraiment très très compliquées dans le livre. Mais après, grâce notamment à beaucoup de recherches, de dictionnaires, j'ai lu énormément de choses donc sur la pêche, les filets, les bateaux. Et il y a un livre incroyable de Christine Escalier qui s'appelle Les pêcheurs de Nazareth, Portugal, l'empreinte de la mer. Qui a été publié aux éditions de l'Harmattan et qui est en fait une partie de la thèse de Christine Escalier sur les pêcheurs de Nazareth. Et c'est vrai que ce livre a été une mine d'informations très très précieuse pour moi, pour la traduction, notamment de tout ce qui est technique. bien que énormément de termes n'aient pas de traduction à proprement parler, parce qu'il s'agit de spécificités locales, parce qu'il faut savoir que tout est ancré dans des territoires et des... Et parfois, oui, comme je le disais, ça change de... En 20 kilomètres, c'est plus le même terme, si vous voulez.
Tout à fait, c'est pas pour rien non plus, parce qu'il y a des termes que vous avez laissés en portugais. Elisabeth Montel, oui. Je vous remercie, donc c'est vous qui avez fait la traduction. Les pêcheurs de Raoul Brandon, édition Chandaigne et Lima. Et bon vent, parce que vous allez au bord de la mer en Bretagne. Merci.
Merci.
En effet, bon, aujourd'hui, on a parlé solidarité, on a parlé également que littérature, cinéma, et maintenant on va parler photographie. Et justement, une expo que, expo, le titre l'expo, je pense que c'est un principal intéressé à nous le dire. Et il s'agit de J.M. Simonge, il s'agit, bon, Jean Manor Simonge, mais enfin, bon, on le cherche, je sais pas s'il est dans son labo, dans la chambre noire, comme dirait l'autre, en train de passer de la pellicule, quelque chose sur le papier, bon, en fait, c'est une autre affaire. En attendant, eh bien, à mon avis, cinéma, bon, on revient à lui, Bulacana, un film de Leonor Novo, un film portugais, un film qu'observe les rapports économiques post-coloniaux à travers les trajectoires croisées de deux femmes philippines. L'une s'apprête à quitter son île natale pour travailler comme employée de maison au Portugal, l'autre à rentrer au pays définitivement, où le film sera projeté le dimanche 10 mai à 14h15 au musée du Quai Branly, Jacques Chirac. Ça sera le dimanche prochain. Et attends, il y a une autre date que je vais vous avancer. La date, c'est que, bon, c'est déjà commencé. Le 1er mai, c'est déjà passé. Ça sera jusqu'au 29. J.M. Simon, bonjour.
Bonjour Arthur, bonjour la technique, bonjour tout le monde.
Jean Monner Simon, bon, mais J.M. Simon, c'est comme ça, vous signez vos photos. Alors, cette expo, on va peut-être bon, faire un petit écart, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est pas moi qui l'a dit, bon, je lis, hein. À l'heure des grandes questions sur la quête de sens, l'éthique, le progrès, le fake, l'intelligence artificielle, la propagande, la désinformation, la manipulation, les photographies truquées, la séparation du sens critique des valeurs culturelles, bon, ça n'empêche que vous êtes convaincu par autre chose, je crois.
Oui, que rien n'est perdu. Moi, je reste un éternel optimiste. Rien n'est perdu tant qu'il y a de l'humain. En fait, tant qu'on accepte de ne pas devenir des machines et qu'on continue d'avoir un peu de primo, de culture, de curiosité, de goût, de plaisir, de sens critique. Et tant qu'il y a des jeunes, il n'y a rien de perdu.
D'ailleurs, bon, je vous cite, hein, je vous cite à vous. Comme le lien le plus direct entre deux points reste encore la ligne droite, j'ai cherché à combler ce vide par moi-même. Bon, ça mérite une explication, parce qu'il s'agit d'une expo de photos et de collages. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut déjà voir à la Moulinette? Alors, la Moulinette sur en 80 bis rue Lépic à Paris 18, et l'expo qu'on peut voir de 14 à 19h30, mais également, etc., etc. Bon, qu'est-ce qu'on voit exactement? Qu'est-ce que vous avez repris, si vous avez repris, les travaux photographiques que vous aviez faits?
Alors, c'est pas un travail de photographie au sens où j'ai pris des photos et je les ai tirées. C'est un travail qui est plutôt sur le sens de l'image. Donc, c'est des tirs. Moi, je travaille encore à l'ancienne, hein, donc je fais des tirages à la main, je travaille en film. Enfin, voilà. Ancienne école, c'est normal, c'est de mon âge. Et à partir de ça, donc, on sait qu'une photo est polysémique. Je veux dire, il n'y a pas de souci. Une photographie, si elle n'est pas contextualisée, moi, je le dis en tant que photographe, et tout le monde en est conscient, il est impossible de comprendre ce qui s'y passe réellement. On peut imaginer, mais on ne peut pas réellement savoir. Si une photo, elle peut être mise en scène en studio. Il y a des photos sur la guerre faites par Jeff Wall qui ont été faites en studio, qui ont été décrites comme les plus belles photos de guerre du XXe siècle. Donc voilà, donc il est très difficile de comprendre une image, de la lire correctement sans un contexte. Le contexte est souvent donné par quelque chose qui est à l'extérieur de l'image, qui est du texte. Alors, je vais pas faire le méchant jeu de mots de dire que c'est du texte con. Non, c'est du contexte. donc, moi, plutôt que de faire appel à de la presse ou à des directeurs artistiques, etc., ça fait des années que je contextualise mes images en intégrant du texte à l'intérieur, en fait. Et donc, sur des tirages qui sont des tirages traditionnels, hein, papier barité, classique, des tirages d'expo, finalement, qui ont été exposés, j'ai refait un travail dessus, qui est un travail qui, pour moi, vise un petit peu à interpeller les personnes qui vont visiter l'expo, en jouant entre le visuel et le texte, en fait. Et un texte qui ne fait pas partie de l'image au départ, mais qui est rajouté, qui est du collage, en fait, qui est de l'ordre du collage.
Mais il y a des images qui peuvent nous déranger. Des fois, ça fait bien qu'on soit dérangé. Concrètement, vous pouvez peut-être donner un ou deux exemples, parce que, bon, toujours est-il qu'il y a des choses qu'on n'aime pas regarder le monde en face, parfois. J'y aime ces images.
Justement, si on n'aime pas le regarder en face, c'est parce qu'il nous fait mal. Mmh. Et s'il nous fait mal, c'est peut-être parce qu'il n'est pas très beau. Et donc, c'est peut-être ça qu'il faut avoir le courage de regarder un petit peu de temps en temps pour essayer de le changer, ou en tout cas de ne pas forcément décourager ceux qui essayent de l'améliorer et de le changer. Donc là, je pense aux jeunes, hein, je pense pas aux vieux. Mmh. Donc, pas forcément dire que c'était mieux avant, que les jeunes ils savent plus lire, ils savent plus ceci, ils savent plus cela. Voilà, ils s'en prennent plein la tête. Les jeunes, nous on a été jeunes, c'était déjà pareil avant, hein, de toute façon. Donc peut-être bon, moi j'ai plus de 60 piges, hein, donc c'est peut-être bien qu'on réagisse pas comme des vieux cons et qu'on part du principe qu'il y a des choses qui sont pas parfaites et qui doivent être remises en question. Et ceux qui les remettent en question sont peut-être pas des chieurs, mais c'est peut-être des gens qui cherchent leur place dans un monde qui est pas parfait, quoi.
J.M. Simon, et avec tout ce que vous venez de dire, justement maintenant, je pense aux reporters photographes de guerre. Je pense à cet nombre de photographes qui, de reportages. On peut dire aussi que votre profession, c'est une profession sinistrée. Parce que bon, maintenant c'est la rentabilité qui compte. Alors maintenant tout le monde peut faire des photos, bon, à cause du digital et envoyer, bon, et même les rédactions, que ce soit de radio, télé, presse écrite, etc. Demande, envoyez-nous, tout ça. Mais finalement, on perd quelque chose parce que un journaliste, photographe, journaliste, reporter d'images, etc., etc., il est plus qu'un témoin, parce que lui, il a un regard différent, il arrive à contextualiser les choses. Je pense que, pour vous, le contexte, c'est très important dans le travail que vous faites.
Bah, oui, en fait, moi, je pense que cadrer une photo serrée, c'est la décontextualiser, la cadrer plus large. C'est moins sensationnel, évidemment, mais c'est lui offrir un contexte. On l'a tous pratiqué dans des situations plus ou moins tendues, on va même pas partir sur des zones de guerre, on va partir sur des choses très très simples que la plupart des gens qui nous écoutent connaissent. On va voir des photos de manifs où ça bastonne, parce que maintenant il y a systématiquement des images de violence sur les manifs parisiennes ou en province, etc. Ce qu'on ne voit jamais, c'est ce qu'il y a hors cadre, hors champ, et bien souvent 10 mètres à côté, il y a la manif qui se passe et qui passe, qui défile, et il ne se passe absolument rien. Donc on est vraiment dès qu'on est dans le serré, on est dans une recherche de sensationnel, mais on n'est pas dans une recherche de sens. Il y a le ascensionnel qui est en plus, mais c'est pas du tout ascensionnel, quoi. C'est malheureusement, quoi. Donc le sens importe plus que le sensationnel, mais le sensationnel est ce qui fait vendre.
Oui, non, mais en même temps, est-ce que ce serait pas de la propagande?
Alors là, c'est un vaste débat.
Oui, tout à fait. Oui. J'élargis.
Je suis pas sûr qu'on ait le temps d'en discuter. Alors, il y a Mark Twain qui avait dit cette phrase extraordinaire, et c'est déjà au 19e siècle, hein. Quand on lit pas la presse, on n'est pas informé. Quand on lit la presse, on est désinformé.
Oui, ça, c'est un bon résumé, c'est oui.
donc voilà, et on est au 19e siècle. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il vaut mieux savoir que de pas savoir, mais il faut aussi savoir faire le tri Et il y a un grand problème avec autant on apprend à lire à l'école, on apprend à analyser des textes, on apprend à faire des synthèses, etc. Avec le texte, autant avec l'image, il n'y a pas d'éducation et de l'image, il y en a partout. Donc évidemment, il est très facile de manipuler. D'autant plus que l'image dans le cerveau est quand même la chose la plus importante. Nous, on comprend par image. Hein. C'était Einstein qui avait découvert ce processus, enfin qui l'avait modélisé après les découvertes de Jung au début du 20e, où il avait dit notre cerveau ne comprend que ce qu'il est capable de transformer en image. On ne comprend pas avec des mots, avec des concepts, on comprend avec des symboles.
Mais je reviens à la base finalement, parce que pour moi, une photo c'est un témoignage. Un témoignage d'une réalité, un moment concret, dans un endroit bien précis. C'est-à-dire, et à partir de là, on peut se poser des questions. Est-ce que finalement, dans votre travail, c'est pas l'expo, qu'on peut l'avoir à la Moulinette jusqu'au 29 mai, c'est photo, collage, etc., etc. Mais finalement, un photographe, c'est un témoin de son temps. Et quand on regarde aujourd'hui les vieilles photos des photographes, qui nous sont déjà quittés malheureusement, des villes, des professions, etc. Bon, c'est un témoignage important, le travail de photographe.
Moi, je considère que oui, et je pense que la plupart des gens aujourd'hui considèrent que oui, ce qui explique que la photographie se soit autant développée sur les... Aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo dans la poche, hein, avec le téléphone. Tout le monde produit de l'image, tout le monde distribue ses images, etc. Donc, il y a un rapport à l'image qui, aujourd'hui, est très fort. Et au-delà de ça, je me rends compte que l'éducation à l'image, pas la lisibilité de l'image, mais l'éducation et la culture en général de l'image, c'est quelque chose qui a énormément progressé. Tout le monde s'est cadré. Je parle même pas de la technique, parce que la technique aujourd'hui, elle est automatique. Le matériel a tellement évolué que il n'y a pas besoin de caler l'ouverture, la vitesse, etc. Tout ça se fait automatiquement. Mais par contre, les compositions, le sens du cadrage et de la composition, il est vraiment intégré dans les têtes. Ce qui n'est pas intégré, c'est peut-être que l'image, c'est peut-être pas forcément un témoignage, c'est peut-être aussi des questions.
Merci de m'avoir dit ça, parce qu'effectivement, j'avais vu qu'un seul aspect de la question. J.M. Simoes, je vous remercie donc, J.M. Simoes et la Moulinette, jusqu'au 29 mai, expo photo et collage, la Moulinette, 81 bis rue Le Pic, Paris 18e, dès 14h à 19h20, et sur un rendez-vous, peut-être expliquer d'une façon résumée, qu'est-ce que c'est ce rendez-vous?
On va avoir des rendez-vous musique, il va y avoir du flamenco, il va y avoir de la guitare, il va y avoir des choses, donc voilà, on va avoir un certain nombre de rencontres avec des amis artistes qui vont faire des interventions, donc ça va être plutôt pour le fun, mais le premier rendez-vous est jeudi prochain, le 7, puisqu'on a un premier vernissage jeudi à partir des 18h, où Arthur et les techniciens, et puis qui veut venir, est bienvenu, quoi qu'il en soit, quoi.
Merci pour l'invitation, parce qu'il y aura de la couleur et ça bouge. Et merci pour votre témoignage. Et je dis, ça fait tiquer quelque part, mais enfin, parce que les photographes, pour moi, c'est un témoin de leur temps et leur objectif. Des fois, il est plus objectif de tout ce qu'on puisse dire. Merci et à très bientôt.
Merci à vous. Bonne journée, bon dimanche.
Merci. Au revoir. E agora vamos partir muito longe, vamos partir a Moçambique, e estou a pensar na população de Cabo Delgado, que é alvo de agressões dos jihadistas, com efeito, mortes, destruições e por aí fora. Bom, Orquestra Marraventa Star de Moçambique.
contre pelle, achia que mudei meu cuero. Releleche, chaco famba, você colocou de pele, achia que mudei meu cuero. Até com a mãe maquejo. Minha Maria Antônia, me puta até com a mãe maquejo. Lá que eu vou contar uma para logo de pele, puta até com a mãe maurana. Relele, se eu vou contar uma para logo de pele, puta até com a mãe maurana. Até com a mãe uma urlana. Yeah, 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 yeah. Yeah, Maria Antônia, me puta até com a mãe uma urlana.
Orquestra Marrabenta Star de Moçambique, e estamos no final desta emissão. Obrigado, Manuel Alexandre, e espero regressar aqui na próxima semana. É como canta o Sérgio Godinho, parte sem dor.
E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que dentro a dor não parte sem dor. E agora eu vou-me embora, embora a dor não queira já ir embora. Agora eu vou-me embora e parto sem dor. E parto dentro de momentos, apesar de haver momentos em que...
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Artur Silva.